Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Clé des Champs. Aujourd'hui, on met à l'honneur l'enfance et la jeunesse avec un focus sur tout ce qui contribue à l'éveil artistique et culturel des plus jeunes sur notre territoire. Théâtre, histoire, projets menés dans les écoles, rencontres avec des artistes, bref, tout ce qui permet aux enfants de découvrir, de créer et de s'ouvrir au monde. Et pour commencer, Valérie est avec nous. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Guillaume.
Avec Renaud, vous êtes allé à la rencontre de Nicolas Ragé, comédien de la compagnie Loré Dubois. Vous nous parlerez ensemble de son univers, de sa compagnie, mais aussi et surtout de son travail auprès du jeune public, au plus près des enfants d'Aunis Sud. Ensuite, on changera de scène. Julie nous fera revivre la ronde des histoires à la bibliothèque de Chambon. Ambiance chaleureuse, regard émerveillé et voix qui chuchote des mondes imaginaires, le tout dans son micro-trottoir. Puis zoom sur la microfolie pour ouvrir les portes des musées du monde, sans quitter Aunis Sud avec Renaud. Bonjour Renaud.
Bonsoir Guillaume.
Renaud, tu accueilleras François Barbanchon, médiateur culturel de la Microfolie, pour nous parler de ce dispositif qui met à portée des petits comme des grands les chefs-d'œuvre des plus grandes collections. Et enfin, nous retrouverons Valérie pour l'agenda culturel. On fera le plein d'idées, d'activités et de sorties à partager en famille. Alors restez bien avec nous, 30 minutes de culture, de jeunesse et d'évasion vous attendent. La Clé des Champs s'ouvre maintenant, c'est parti.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes comédien à la compagnie Loré Dubois. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos auditeurs et nous parler de votre compagnie?
Oui, donc je suis Nicolas Ragé. Je suis à la base comédien, j'ai une formation de comédien et à présent je suis aussi metteur en scène, auteur et donc responsable artistique. J'ai un peu toutes ces casquettes. Pour la compagnie Loré Dubois, elle a été créée en 2014. On a commencé par faire des spectacles plutôt dans le domaine historique. Et puis, ça a évolué autour du thème de l'émancipation, mais toujours avec un pied dans le patrimoine. Et donc, depuis 2017, on propose des spectacles, des interventions, principalement sur la CDC. Mais le territoire d'action, je dirais, ça s'étend entre Royan et Niort.
Et votre actualité, alors, ces derniers temps?
On travaille, pour l'instant, on a travaillé beaucoup en solitaire, j'allais dire, je mets des guillemets à solitaire, en tout cas en tant qu'artiste. Et puis, depuis 2022, j'ai rencontré Delphine Robin de la compagnie des culottés avec qui on s'est rapproché. Et on commence des projets en coproduction, notamment un spectacle jeune public qui est dans le balbutiement pour l'instant. Et puis voilà, différents partenaires qu'on a rencontrés aussi sur le territoire, on est en train de construire ça maintenant à plusieurs.
Très bien.
Il me semblerait qu'il y a une mutualisation de prévu.
Alors il y a une mutualisation, oui, sur le local notamment. Donc on a été avec la compagnie des culottés accueillis à Saint-Pierre-Lanoux. Ils nous mettent à disposition l'ancienne école de Perret, un bout de l'ancienne école de Perret, où on a pu poser nos valises pour tout ce qui est travail de bureau et puis surtout un local pour nos décors, accessoires, costumes, tout le petit bazar.
C'est important.
C'est très important.
En 2026, vous allez travailler dans deux écoles d'Aunis Sud, à Ciré d'Aunis et à Forges, pour proposer des ateliers de théâtre à nos enfants. Pouvez-vous nous raconter ce que ces ateliers vont leur permettre de vivre et de découvrir?
Alors, le principal objet, c'est de vivre... de participer à la création théâtrale. C'est un bien grand mot, mais c'est comment on rend vivant un texte, pour faire très simplement. Donc les questions qu'on va être amené à leur poser et à résoudre avec eux, c'est comment on transforme un texte en pièce de théâtre, comment on fait naître un personnage, quel choix de costume, de décor, comment on interprète. Et puis surtout, comment, par quels moyens on transmet ça au public. Donc c'est tout l'univers théâtral et on va leur faire vivre ça en un petit peu moins d'un an.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec les enfants?
Alors, dans mon parcours personnel, tout jeune, j'ai été animateur en colonie de vacances. Ça, c'est un premier point. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis en parallèle, quand je ne savais pas encore que je voulais faire du théâtre, j'ai fait des études pour devenir professeur des écoles. Donc je me préparais à tout ça et donc le jeune public, moi c'est toujours un public, je me répète, en tout cas avec lequel je me sens proche et avec lequel j'ai envie de travailler.
C'était comme une vocation.
Oui, c'est ça. En fait, voilà, c'est ça. Ma vocation n'était pas de devenir prof d'école, mais avec le théâtre, du coup, je peux rejoindre cette partie-là de moi.
Et qu'est-ce qui vous marque le plus quand vous êtes avec eux? Vous avez des anecdotes à nous partager?
Oui, moi j'aime beaucoup leur imagination et puis leur alors pas leur manque de filtre, mais en tout cas leur filtre qui est un peu plus ténu, et donc on est sur des réactions très vives et puis pures, j'allais dire.
Spontanées.
Très spontanées. Et en anecdote, dernièrement, justement avec la compagnie des culottés et le réseau des bibliothèques, on a proposé un atelier pendant les vacances de la Toussaint, et on devait présenter des contes, soit de manière traditionnelle, mais aussi de les réinventer. Mmh. Et notamment, avec mon groupe, ils ont réinventé le Chaperon Rouge. Et le Chaperon Rouge est devenu une héroïne de western qui rencontrait des mammouths. Et la grand-mère du Chaperon Rouge était Shakira.
D'accord.
Voilà, au niveau des mélanges purs, qui est spontané, on était dans le vif du sujet, là.
Et là, il y a eu une représentation de ce
petit création. Oui. Ah oui, on a fait une représentation commune avec le groupe que Delphine Robin avait de son côté. Moi, j'étais à la bibliothèque du Tout et elle à la bibliothèque de Saint-Germain-de-Marancène. Et on a pu faire une représentation commune à la salle des... Non, c'est pas la salle des associations, à la maison du village de Perret.
Est-ce que cette innocence des enfants nourrit votre imaginaire?
Tout le temps. Tout le temps, parce que plus on avance dans l'âge et plus on se conforme quand même à la société, à nos vies personnelles, et quelque part ça enferme un petit peu notre imagination. Les enfants, ils n'ont pas ça, donc ça nous permet nous de nous en nourrir et puis de retrouver nous-mêmes notre enfance, cette imagination débridée sans se poser de questions, et là oui, c'est hyper enrichissant. Oui.
Le travail que vous allez faire donc à Cirédonis et à Forge, c'est un travail collaboratif. Vous l'avez pas monté, imaginé tout seul.
Ah non. Ça, c'est un projet qui est porté déjà par la communauté de communes, le service culture, l'éducation nationale aussi, et la DRAC, si je ne m'abuse. Mm-hmm. C'est financé et au niveau logistique aussi, c'est porté par ces structures-là. Et après, on a aussi les communes qui s'investissent dedans, parce qu'il y a notamment, je pense, à la cantine, si on doit, nous, avoir des repas qui sont pris en charge, des transports, etc. Donc, c'est vraiment une co-construction. C'est un mot un peu bizarre, mais on construit ensemble avec ces structures institutionnelles, et puis bien évidemment avec les enseignantes, parce que, je mets ça au féminin, mais les enseignants et les enseignantes, qui participent au projet. On propose, nous, quelque chose d'assez basique au départ, et en discutant avec les enseignants, on va inventer tout un projet pour les élèves, qui mêle artistique et pédagogique.
Et ça, vous avez commencé à travailler pour 2026 déjà avec les enseignants?
On commence juste, on a rencontré les enseignants là pour l'instant, qui étaient très partantes pour travailler autour du conte. Voilà, de manière très, très, très générale. Mm-hmm. Et on est en train de mettre en place tout un planning, parce qu'il faut évidemment prendre en compte l'agenda scolaire. Mm. Voilà, les pauses, notamment le rythme des enfants, leur rythme aussi pédagogique. Donc, on est dans le tout début, là.
Mais donc, vous interviendrez bien dans les classes?
On intervient dans les classes, c'est le projet, en effet. On vient dans les classes, on fait participer les enfants, on leur fait écrire, jouer, etc. Et puis, on voudrait justement le présenter devant un public à la fin. Donc,
c'est ça,
qu'ils vivent l'ensemble d'une création théâtrale.
D'accord, jusqu'à une représentation pour les parents ou le grand public même.
Du grand public.
Et les enseignants seront aussi partie prenante intégralement de ce projet? Ils sont juste organisateurs ou ils font aussi partie de la partie théâtrale?
Alors, ils font partie de la partie théâtrale, c'est dur à dire ça d'ailleurs, parce que eux vont transmettre ce que nous on verra en atelier ponctuellement, mais eux, ils pourront diffuser ça sur l'ensemble de leur temps scolaire. Lire les contes, l'écriture, répéter un petit peu ce qu'on a fait. Et pourquoi pas, ça arrivait dans certains cas, dans mon expérience, que les profs soient même sur le plateau avec les enfants, en train de jouer entre guillemets avec eux. Donc suivant l'implication des enseignants, ils peuvent être plus ou moins proches de tout ça, mais dans tous les cas, ils sont partie prenante du projet.
C'est un gros travail, ça va représenter combien d'heures de présence?
Alors, pour nous, en tant qu'artistes, on a une vingtaine d'heures, je crois, entre 15 et 20 heures de présence dans les classes, ce qui est quand même assez important. Et mais ça nous permet à nous de prendre le temps justement auprès des enfants de construire, de leur apporter tout ce qu'on veut leur apporter en tout cas. On n'est pas dans un petit stage très rapide où on peut travailler que sur un sujet. Là, on va pouvoir explorer quand même différents sujets théâtraux et qu'ils aient un vrai apport pédagogique.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire, un vrai projet pédagogique avec l'instituteur, enfin le professeur des écoles, pardon, sur toute l'année scolaire finalement.
Oui, tout à fait.
Et vous ne vous limitez pas à ça? Vous travaillez aussi avec le conservatoire, le réseau des bibliothèques, il y a un peu tout le monde.
Alors oui, c'est ça. C'est que depuis 2017, les partenaires du coup se multiplient et donc on a donc avec le conservatoire, on est en train de co-construire encore une fois la fête de la musique prochaine.
Déjà,
il faut y penser maintenant parce que il faut savoir ce qu'on va raconter comme spectacle, les morceaux qu'il faut choisir. Il faut que les élèves du conservatoire qui vont y participer puissent répéter. Enfin voilà. Et puis il y a d'autres partenaires aussi puisqu'il y a aussi la communauté de communes qui s'inclut aussi dans cette fête de musique. Enfin voilà, j'en dévoile pas trop parce que il faut garder une surprise
là.
Et puis ça peut évoluer. On a encore plusieurs mois.
Donc il n'y aura pas que le conservatoire d'associés.
Non, il n'y aura pas que le conservatoire d'associés dans cette fête de la musique. Et puis après, d'un autre côté, le réseau des bibliothèques, puisqu'on travaille, là j'en reviens avec la compagnie des culottés, notre spectacle jeune public. On a déjà fait appel au réseau des bibliothèques pour nous accueillir en résidence. Mm-hmm. Alors, petite parenthèse pour celles et ceux qui ne connaissent pas les résidences, c'est un temps donné, généralement une semaine, voire deux, sur un même lieu où on répète exclusivement dans ce lieu. Sur l'ensemble de la journée, parce que notre travail fait qu'on est par Mons et par Vaud, et donc les répétitions peuvent être très éparses, mais ces temps de résidence sont importants pour nous parce qu'on est concentré vraiment sur un seul projet à la fois. Et donc là, dernièrement, pour notre pièce Jeune Public avec la compagnie des culottés, on était à la bibliothèque de Puyraveau. On est resté une semaine.
Une semaine, on vous met à disposition le local.
Exactement. Donc voilà, et ça va venir parce qu'on va aller à Landré en janvier, à Rochefort, à la boîte. Ça s'appelle ce lieu de création en mars-avril. Enfin voilà, il va y avoir comme ça plusieurs lieux qui vont nous accueillir et ça fait partie des partenaires avec lesquels on travaille.
Et l'idée là, c'est de créer une nouvelle pièce. Donc.
Là, c'est une nouvelle pièce. Ça s'appelle En attendant le petit poussé. C'est écrit par Philippe Dorin avec deux personnages sur scène, donc Delphine et moi-même. Et on a demandé à Aurélie Gepfer, qui est notre professeure de chant à Niort, commune, de nous faire la mise en scène. Donc on va allier théâtre avec aussi de la musique à l'intérieur.
Ah, parce que vous faites de la musique.
Alors, je fais de la musique. Oui, j'ai fait de la musique. Enfin, j'ai fait. En tant que chanteur, oui, je prends des cours donc de chant à Niort. Je fais partie aussi d'un groupe de comédie musicale aussi aux ateliers du Baluchon. Et j'ai fait, mais alors il y a très longtemps, de la clarinette. Et la bonne idée de notre metteuse en scène est donc de mettre de la clarinette dans le spectacle. Il va falloir que je m'y remette.
Ah bah voilà.
Parce que mon niveau de clarinette.
Je connais un professeur.
D'ailleurs, au conservatoire, non, je vais faire la bulle pour le conservatoire.
Ouais,
il va falloir que je m'y remette. Mais oui, j'ai quand même des bases de solfège aussi qui m'aident aussi pas mal pour ça. Heureusement. Mais c'est du travail. Ça se fait pas en claquant des doigts.
J'avais une petite question sur les moments de résidence. En fait, ces moments privilégiés de création.
Oui.
Est-ce que quand on se fixe un agenda avec donc ces moments définis, quand on y est, est-ce que l'inspiration vient tout de suite? On choisit pas le moment. Alors que souvent on entend que l'inspiration, elle vient et elle part. Et là, vous avez des moments définis. Comment vous organisez en fait
On essaye de provoquer l'inspiration. Mais l'inspiration, c'est essayer, tenter aussi. Et l'inspiration, c'est pas effectif. C'est pas parce qu'on a une inspiration que ça va forcément réussir aussitôt. Donc, en effet, il nous faut aussi des temps de repos pour laisser les choses se faire, nous-mêmes rencontrer d'autres personnes, vivre d'autres choses qui nous permettent ces choses qu'on peut réinjecter dans le projet. Mais l'inspiration sur ces moments de résidence, eh bien, c'est du test. On a une idée, on discute, on teste, on voit si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, on met, on retire, mais ça tout au long du projet. Donc, il y a des moments où on fait des résidences, on n'a pas quelque chose d'effectif à la fin, parce qu'à ce moment-là, c'est pas que l'inspiration nous manquait, c'est que tout ce qu'on a essayé n'est pas concluant pour nous, en tout cas. Et donc, il y a des moments de creux, mais ça fait partie du processus de création. Donc, on fait avec ce qu'on a, justement, à ce moment-là. Et ces moments de résidence, ça se passe vraiment dans le temps, parce que pour le petit poussé, par exemple, on est sur un travail de 2 ans et demi pour créer une pièce. Donc, on se laisse du temps aussi pour générer cette inspiration, en tout cas, de trouver des choses qui soient effectives pour le projet.
Donc, vous nous avez parlé des ateliers dédiés aux enfants sur le territoire de Nice-Sud, mais vous avez aussi une autre actualité, puisqu'il semblerait que vous reprenez le projet qu'on appelait Parole de Gargouille.
Oui.
Et qui était géré par la compagnie Les 3C au château.
Oui.
À Surgères.
Oui, tout à fait.
Vous pouvez nous en parler un peu?
Oui. C'est donc Agnès Brion qui a eu la gentillesse de me proposer de reprendre ces gros spectacles estivaux destinés au grand public et qui parlent du patrimoine. Et donc le projet donc pour l'été 2026 que j'aimerais étaler au moins sur les 3 années à venir parlerait du personnage d'Ozanne Achon, qui est une personnalité du XVIIe siècle qui est partie en Nouvelle-France à l'époque, qui s'est mariée avec un Pierre Tremblay, et là-bas ils ont eu 12 enfants, ce qui est assez commun pour l'époque. Mm-hmm. Mais actuellement, de nos jours, il y a à peu près 150 000 descendants de ces deux personnes-là. Ah, oui. Donc Ozanne Achon est un personnage important, d'ailleurs elle a sa place à Puyraveau. Et donc on va parler de ce personnage, et sous couvert de ce personnage, on va pouvoir parler de la colonisation, de la place des femmes aussi à l'époque, et aussi de la place des premières tribus primaires. Je ne sais plus le terme exact, en tout cas voilà, des personnes qui étaient déjà sur ce territoire là à l'époque. Donc voilà, c'est un gros projet qui mêlera professionnel et amateur. J'espère aussi avec des chants, j'espère aussi avec des mouvements de foule, un peu chorégraphie, enfin bref, un gros spectacle.
Super, on a hâte de voir tout ça. Mmh. Et c'est prévu pour quand?
Le début de l'été 2026, on prévoit 5 représentations dans l'été. Et qui, comme le projet est aidé par la CDC, on voudrait que ce soit dans 5 communes différentes. Ce soit un spectacle itinérant qui se déplace dans les communes de la communauté de communes. Pardon.
Donc on en reparlera, forcément.
Oui, bien sûr qu'on en parlera.
Super.
Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Nicolas. Ça donne envie. À très vite.
Merci, Valérie. Et merci à Nicolas Rager pour ce moment. On sent bien tout l'investissement et l'envie de transmettre à travers cette interview. On rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité de la compagnie Lauret Dubois sur leur page Facebook, compagnie Lauret Dubois. On continue notre balade culturelle et maintenant direction Chambon avec Julie qui s'est immiscée au cœur de la Ronde des Histoires pour ce nouveau micro-trottoir. On vous laisse écouter.
Bonjour, je suis Violaine, je suis bénévole et responsable de la bibliothèque de Chambon. Et nous allons assister à un spectacle dans le cadre de la Ronde des Histoires. C'est une fois par an dans chaque bibliothèque du réseau. Et ça a beaucoup de succès, donc on est très très ravis d'accueillir ce spectacle. Et nous allons accueillir des tout petits enfants avec les assistantes, leur assistante maternelle.
Vous êtes entourée de combien de petits?
Ah ouais. Deux, on en a 5. Moi j'en ai 2.
Vous en avez 5. Donc qui ont quel âge?
2 ans.
2 ans.
Et 1 an et demi.
Et là, vous venez pour voir le spectacle d'Emmanuel Marquis dans la Ronde des Histoires. C'est la première fois que vous venez?
Oui. Non, c'est pas la première fois, mais elle, je pense, oui.
Ah voilà. Oui, pour ce spectacle-là.
Oui,
ce spectacle-là. La Ronde des Histoires, par contre, vous y participez
tout le temps,
régulièrement?
Tout le temps. On a tous fait.
Et pourquoi c'est important pour vous, la Ronde des
Histoires? C'est une
sortie pour les enfants, ils aiment bien.
Et puis, ils accrochent.
Ils accrochent bien.
Et ils sont déjà habitués à aller au spectacle.
Oui, c'est ça. Ça les habite. Ben, les histoires, le rêve, voilà. Les paillettes dans les yeux.
Je m'appelle Petit Clé. Coucou. Coucou. Moi, Petit Clé, j'adore jouer à cache-cache.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que je peux vous laisser vous présenter?
Oui. Alors, Emmanuelle Marquis, je suis comédienne, plasticienne et autrice.
Je vais jouer devant des tout petits bouts de choux, le petit pinceau de clé, un spectacle que j'ai écrit, qui a été mis en scène par moi et ma collègue Sophie Stalport, qui parle de la peinture, mais aussi des émotions des tout petits. Et la peinture, je m'appuie sur deux tableaux existants, un tableau de Vassili Kandinsky et un tableau de Paul Klee. Les tout petits sont très sensibles au sens, et particulièrement le visuel, le son aussi. Et je m'adresse aussi à eux, comme si je leur racontais une histoire à eux, et je pense qu'ils le sentent. Donc forcément, ça interpelle les tout-petits, puisque je parle de leurs préoccupations.
Et là, c'est dans le cadre de la Ronde des Histoires. Est-ce que vous intervenez depuis longtemps dans cette programmation ?
Alors oui, j'interviens depuis longtemps et je remercie du fond du cœur ce dispositif, la Ronde des Histoires, parce que le petit pinceau de clé est né à la Ronde des Histoires. Voilà, ils m'ont fait confiance il y a des années et moi je suis très contente que ce dispositif existe parce que c'est amener l'art et le spectacle au tout petit dans des communes rurales et ça, je trouve ça extrêmement important.
Et même le tout petit a tout suivi.
Ouais. Depuis août que je l'ai, il a tout fait.
C'est vrai.
Il a 5 mois.
T'as aimé le spectacle?
Oui.
Vous êtes des bambins, c'est ça?
Oui.
Vous êtes avec combien d'enfants là?
6 enfants, 2 parents et une professionnelle.
Vous les faites en fait beaucoup des spectacles?
Oui, on en rate quasiment aucun. Nos enfants en dernière année de crèche, on sort petit à petit de la crèche pour s'ouvrir à l'extérieur. Donc tout ce qui est culturel, Ronde des Histoires, bibliothèque, centre de loisirs.
À revenir.
Ah bah tant mieux si vous avez.
Ah mais car oui, non, franchement. Ah mais dans tous les cas, je suis zaguée. Moi, la Ronde des Histoires, c'est une première. Et ben, je trouve ça super génial.
Et on retrouve Renaud maintenant pour notre Zoom du jour. Renaud, aujourd'hui tu reçois François Barbanchon pour nous parler de la microfolie et d'une autre façon de rendre la culture accessible à tous et notamment aux plus jeunes.
Bonsoir François.
Bonsoir.
Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le médiateur culturel de la microfolie de Surgères. Pour situer ce lieu, pour ceux qui ne le connaissent pas, pouvez-vous nous présenter la microfolie ?
Les microfolies, c'est un projet mené par le Parc de la Villette, porté par le ministère de la Culture, pour créer des espaces culturels dans des lieux qui en ont besoin, en ruralité et dans les quartiers prioritaires. Ces lieux, ils gravitent autour d'un musée numérique, c'est-à-dire une large collection d'œuvres et de contenus culturels qui viennent des nombreux musées à travers le pays, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Alors ici à Surgères, on est implémenté à la demeure du régisseur dans le parc du château. Ça nous permet d'être à proximité à la fois des écoles, mais aussi du public de la ville et des structures culturelles locales.
Vous accueillez régulièrement des classes ? Qu'est-ce qui caractérise votre travail avec les scolaires ?
En effet, le travail scolaire, c'est 80% de mon travail, c'est ce qui m'occupe le plus. On reçoit des classes qui vont de la petite section au lycéen, au terminal, donc faut pas les confondre hein, déjà, parce que c'est pas la même ambiance. Bien évidemment, les enjeux changent en fonction des niveaux. Donc, il y a des choses qui se retrouvent. Hein. Déjà, on essaye de dépoussiérer un petit peu le musée. On essaie de rendre ça un petit peu fun et de les intéresser à ces dispositifs-là et de leur faire comprendre qu'ils sont un public légitime à aller au musée et à poser des questions. Ça, c'est très important. Ensuite, on essaie de récompenser la curiosité aussi, d'aller voir un peu plus loin ce qui peut se cacher derrière les images et l'histoire et la vie des artistes. Pour finir, il y a bien sûr une dimension émotionnelle. Qu'est-ce que je ressens, comment je l'exprime, et aussi et peut-être surtout, qu'est-ce que peut ressentir le voisin, et comment est-ce que je peux m'intéresser à ce que ressent le voisin, et comment je peux en discuter avec lui. Alors du coup, en termes de travail, je m'adapte beaucoup aux écoles et aux besoins des enseignants. Chaque intervention est construite à la demande des professeurs la plupart du temps. Mais généralement, on va retrouver un travail de description, beaucoup. On va travailler aussi avec le dispositif École et Cinéma, qui permet aux écoles voilà, d'aller au cinéma. Et puis bah, après, ils viennent chez moi pour parler un petit peu de tout ça. Et pour les plus grands, en général, on a des thématiques un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus graves. La représentation du corps, la représentation de la guerre, enfin voilà, des choses un peu plus sérieuses qui sont poussées le plus loin possible pour encourager leur réflexion.
J'imagine que du coup, y a aussi une notion de spontanéité pendant ces interventions, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont préparées, mais on va peut-être des fois, en fonction des thématiques qui sont abordées et des questionnements des enfants, approfondir un peu tout ça.
Ouais, tout à fait. En fait, comme je dis souvent, il faut un peu savoir faire feu de tout bois, et donc on peut effectivement prévoir un chemin qui nous paraît évident, et tout d'un coup, effectivement, partir en école buissonnière sur un autre chemin. Mais c'est ça qui fait un peu le charme et l'intérêt de ce travail-là, c'est que, bah, encore une fois, aucun sujet n'est véritablement tabou, aucune expression ne doit être dévalorisée, donc il faut les suivre, il faut les encourager, au contraire, sur ce cheminement-là.
Ouais, chaque séance est différente l'une de l'autre en fonction du public que vous avez en face de vous.
C'est ça. Alors il y a deux trois petites choses qui reviennent souvent, et du coup c'est un peu rigolo de pouvoir s'appuyer dessus parce qu'on sait qu'on va pouvoir aller vers ça. Mais effectivement on se fait surprendre régulièrement, et c'est là qu'on a des talents d'improvisation qui se développent.
Vous proposez également un cycle de conférences avec des artistes du territoire en lien avec le comptoir local. Comment ce partenariat fonctionne-t-il ?
Alors effectivement, pour le tout public, on a développé ça il y a maintenant pas tout à fait un an avec le comptoir local. C'est un partenariat officiel. L'idée, c'est que les artistes qui exposent au comptoir, on leur propose, sur base de volontariat, de venir faire une conférence à la Microfolie. Alors, quand je dis conférence, c'est un terme très large, hein, bien évidemment. L'idée, c'est que on construit une séance ensemble. Ça peut être une interview, ça peut être un monologue, ça peut être de la pratique. On a des artistes qui se sont risqués à l'exercice de la pratique en live, ce qui est pas simple. Mais dans tous les cas, voilà, on part de ce que les artistes veulent exprimer. Et on construit, voilà, ce que je leur dis beaucoup, c'est qu'est-ce qui vous ferait plaisir de mettre en avant. Parce que, bah, en fait, ils n'ont pas toujours l'occasion d'avoir une salle à leur écoute et de pouvoir un peu exprimer d'une autre façon ce qu'ils font.
Pour conclure, avez-vous une nouvelle action, une date ou un projet que vous avez envie de mettre en avant ?
Oui, bien sûr. Alors le trimestre qui arrive, là, janvier, février, mars, on va faire tout un travail autour de l'écriture. Donc l'écriture au sens très large, on va par exemple lire des lettres d'artistes, notamment de Van Gogh. On va proposer des ateliers jeunesse autour de la calligraphie et de l'écriture de texte. Et on va participer pour la première fois aux Nuits de la Lecture, le jeudi 22 janvier. Nous ferons une rencontre d'auteurs avec Blandine Gambassi, j'espère que je le prononce comme il faut, l'autrice du Goût d'un fleuve, édité à la Nage de l'Ours, c'est du local, et elle nous fera le récit de son itinérance et aussi de ses recettes, puisque c'est un livre de recettes. Donc voilà, il y aura un temps convivial avec elle, bien évidemment, et la soirée sera prolongée, si vous le souhaitez, avec les copains de l'association En Avant-Première, qui propose un repas à partir des recettes du livre, bien sûr.
J'ai déjà les papilles qui salivent. Merci beaucoup François.
Avec plaisir.
Puis Delphine Gambiassi qu'on a déjà reçue hein, dans l'émission. On avait fait un sujet justement sur son livre. Merci en tout cas à vous deux. Merci François Barbanchon d'avoir été avec nous aujourd'hui. On passe maintenant à la suite et on continue avec cette dynamique. On retrouve Valérie pour l'agenda.
On commence par les animations proposées par le réseau des bibliothèques. Le vendredi 12 décembre à la salle des fêtes de Landré, où le documentaire « De l'assiette à la mer » sera projeté dans le cadre du programme d'images de science organisé par l'EMF de Poitiers. Cette projection sera suivie d'une conversation avec Léandre Bouffard de l'association Blue Autopa et Alice Bricard, chargée de mission du projet alimentaire territorial de la communauté de communes Onissus. Ce documentaire explore à travers les rencontres d'acteurs, de professionnels, de femmes et d'hommes politiques, comment la pêche, l'élevage industriel ou encore le transport des marchandises modifient les équilibres naturels et menacent les écosystèmes marins. C'est à 19h à Landré. Le 13 décembre, à 16h à la salle des fêtes d'Ardillères, toujours le réseau des bibliothèques, et en clôture de la Ronde des Histoires, vous propose un spectacle de fin d'année intitulé « Voyage au cœur de l'hiver » de la compagnie Déculotté. C'est gratuit, à partir de 3 ans, mais dans la limite des places disponibles. Le Conservatoire de musique, maintenant, vous propose son traditionnel concert de Noël, le samedi 20 décembre à Castel Park, à Surgères, à 15h. Ce spectacle lancera les festivités de Noël en réunissant dans une grande salle l'ensemble des élèves de l'établissement. En effet, ce concert est l'occasion pour tous les élèves, petits et grands, de célébrer la magie de Noël en musique, dans une ambiance conviviale et joyeuse. Au programme, un voyage musical à travers les styles et les époques, porté par les orchestres et les ensembles instrumentaux du conservatoire. Venez nombreux applaudir nos élèves et profiter d'un moment de douceur et d'émotion avant le rush des fêtes de fin d'année. On bascule en 2026, où le samedi 24 janvier, le conservatoire, toujours lui, accueille Franck Tortillier et Patrice Héral, deux artistes de renommée internationale, pour une journée de travail autour de l'improvisation et de l'utilisation du matériel électro. Ce projet, monté en partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse de Saintes, réunira des élèves des deux établissements. À l'issue de leur journée de masterclass, les artistes invités se produiront lors d'un concert ouvert au tout public à 20h30 à la salle des fêtes de Landré. Ils vous proposeront un voyage dans un univers sonore mêlant électronique, samples, sons acoustiques, mélodies, grooves de toutes sortes et surtout beaucoup d'improvisation. Enfin, le samedi 31 janvier se tiendra la 11e édition de la Nuit des Conservatoires. L'objectif de cette animation nationale est de faire découvrir les établissements qui forment les amateurs et les professionnels, qui diffusent le spectacle vivant et qui soutiennent toutes les pratiques artistiques dans le domaine de la danse, du théâtre ou de la musique. Et c'est à ce titre que le Conservatoire vous propose d'assister à deux moments musicaux des classes de piano et de chant lyrique, avec deux représentations, à 14h puis à 16h, le samedi 31 janvier, à la salle des fêtes de Saint-Pierre-d'Amilly.
Merci Valérie pour cet agenda. C'est la fin de ce numéro de La Clé des Champs. On vous rappelle que vous pouvez nous réécouter toutes les émissions en podcast sur hélènefm.com ou sur le site de la communauté de communes, onis-sud.fr. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des initiatives du territoire. Belle soirée à tous!